Vous écoutez
RMC.
Il est 7h42 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Des données du fichier des personnes les plus recherchées en France, du fichier des antécédents judiciaires qui se retrouvent dans la nature après un piratage du ministère de l'Intérieur. Et c'est ce que revendique un groupe de hackers. Bonjour Pierre-Paul Gianetti, vous êtes consultant en sécurité offensive pour Yes We Hack. Yes We Hack, je dois d'ailleurs préciser que vous-même vous savez hacker, vous avez hacké, mais vous revendiquez de l'avoir toujours fait pour les gentils, si je puis me permettre, dans ce monde extrêmement complexe. Mais c'est aussi pour ça que je veux vous entendre ce matin, pour savoir ce qui a pu se passer. Pour nous, néophytes, le ministère de l'Intérieur qui se retrouve hacké avec potentiellement pendant plusieurs jours des hackers qui ont pu se promener à l'intérieur des fichiers et qui à la fin en ont extrait un certain nombre, ça vous surprend ?
Ça me surprend pas. Enfin, le fait que ce soit le ministère de l'Intérieur, c'est très parlant et c'est tout de suite très visible. Mais ce qui s'est passé au ministère de l'Intérieur, ça peut arriver partout, à tout type d'entreprise, privée, publique, toutes les institutions. Les mécanismes d'attaque sont pas nouveaux et malheureusement, ça peut arriver.
Alors, c'est quoi ces mécanismes d'attaque ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont rentrés par où ?
Là, c'est justement tout un travail d'investigation qui est en cours pour comprendre exactement par où ils sont passés et comment ils sont passés. Mais il faut visualiser des hackers qui attaquent une entreprise exactement comme des cambrioleurs qui essayent de rentrer dans une maison. Quand on attaque le ministère de l'Intérieur, c'est vraiment comme si on attaque une immense maison avec énormément de résidents à l'intérieur. Il y a potentiellement plein de portes, plein de passages, etc. Et tout l'objectif de l'investigation en cours, c'est d'identifier exactement par où ils sont passés et comment est-ce qu'on peut corriger et s'améliorer.
Alors, les premiers éléments de l'enquête disent qu'il y a eu une sorte de double infraction. D'abord, via les messageries, c'est-à-dire les échanges de mails. Et ensuite, rentrer dans le fichier qui contient les données sur les personnes les plus recherchées. Comment ça marche, ça ?
Alors, comme vous l'avez dit, le premier sujet, c'est comment est-ce qu'ils sont tombés sur ces messageries, des mails. Voilà. Normalement, les mails, ça devrait pas être accessible. Je ne sais pas exactement par rapport au ministère de l'Intérieur, mais ça peut vraiment se passer dans n'importe quel contexte. Ce qui marche généralement de plus en plus, ça paraît surprenant, mais c'est ce qu'on appelle le hameçonnage ou phishing en anglais. Ça peut faire penser aux mails d'il y a 10 ans où on reçoit des mails avec des fautes d'orthographe, des logos un peu pixelisés en disant « cliquez ici ». On se dit « mais qui ferait ça ?» Sauf que maintenant, c'est de plus en plus personnalisé, de plus en plus ciblé. Et vraiment, dans la très très grande majorité des attaques, ça repose toujours malheureusement sur une erreur humaine. Et il suffit d'une personne qui fait une erreur à un moment.
Qui clique sur le mauvais dossier.
Exactement,
et qui se fait, comme vous dites, hameçonner.
C'est ça.
Ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est qu'on imagine que le ministère de l'Intérieur, c'est quand même un espace sécurisé, un bunker, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Et là, on se rend compte que l'erreur, en fait, elle peut être juste humaine. C'est-à-dire que vous aurez mis tous les systèmes d'alerte possibles, les portes, les doubles portes, il suffit d'une personne qui se trompe.
C'est ce qui est terrible en sécurité, c'est que tout est interconnecté. Vraiment, la solidité de la chaîne, elle repose sur le maillon le plus faible à chaque fois. Et une erreur peut vraiment arriver à tout le monde, même des gens honnêtement, enfin très intelligents, qui ont été un peu sensibilisés, etc. Ça peut arriver.
Une erreur d'inattention, et c'est fichu. Un jeune homme de 22 ans a donc été interpellé hier à Limoges. Ce serait lui qui serait à l'origine de ce hacking. Il serait membre du groupe des hackers, connu pour des activités illégales de revente de données. Il revendique effectivement, en fait, il y a une revendication qui est Breach Forum, de hackers, et qui voudraient se venger de l'arrestation d'autres hackers, dont un soi-disant génie de l'informatique, un Britannique qui s'appelle Kai West. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces gens-là ?
Alors, les groupes d'attaquants, etc., ils sont très divers, très variés, ça change tout le temps, leurs motivations sont différentes. Mais vraiment, après, d'un point de vue cybersécurité, ou d'un point de vue sécurité dans une maison, quand on met une porte blindée ou une serrure, un code, peu importe ce qui nous attaque en fait. Enfin, ce qu'il faut, c'est vraiment réussir à se défendre. Après toute la question.
Comment on peut se défendre ? Est-ce qu'ils auraient pu se défendre ? On parle beaucoup de la question de la double authentification qui est désormais à l'œuvre dans beaucoup beaucoup d'organismes ou d'entreprises. C'est-à-dire l'idée que vous allez sur un site, mais on vous renvoie un texto, par exemple, sur votre portable pour pouvoir avec un code pour pouvoir confirmer que c'est bien vous.
Oui.
Et on découvre que cette double identification n'était visiblement pas en place partout au ministère de l'Intérieur.
C'est peut-être le cas effectivement, comme je vous ai dit, c'est vous pouvez sécuriser le plus possible votre maison. Si au bout du jardin, elle est connectée à un autre jardin, d'une autre maison qui lui n'a pas de porte blindée, de double authentification, c'est vraiment toute une chaîne de bout en bout. Il suffit pas juste de mettre la double authentification quelque part. Et la double authentification, c'est un mécanisme de défense technique. Le plus important, ça reste toujours la sensibilisation et la formation des utilisateurs, parce que dans la quasi-totalité des attaques, à la base, ça vient toujours d'une erreur humaine.
Mathieu.
Après, les données sont extrêmement sensibles parce que c'est le ministère de l'Intérieur et en l'occurrence, on a remarqué une activité suspecte qui permet de savoir qu'on a été hacké. Est-ce qu'il est possible que des services, notamment des services de l'État comme le ministère de l'Intérieur, soient hackés et qu'on ne s'en rende même pas compte ?
Normalement, non. Et le but, c'est justement de réduire le plus possible ce qu'on appelle le temps d'intrusion des hackers. Exactement comme quand des cambrioleurs rentrent chez vous. Le but, c'est d'avoir des alarmes qui sonnent le plus vite possible pour vous prévenir, etc. C'est exactement le même mécanisme en sécurité informatique. Quand des hackers rentrent, le but, c'est de les identifier le plus vite possible. Parce que malheureusement, plus ils passent de temps, plus ils ont le temps d'aller voir certaines pièces.
Et ils ont, semble-t-il, passé du temps.
Mais la différence avec un cambriolage, c'est que le cambrioleur, il part avec l'objet de son larcin. Là, ici, c'est un copier-coller. Les objets qu'ils ont volés, les fichiers, ils sont restés au ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'on peut louper l'info ?
On peut, c'est exactement. Si un cambrioleur rentre chez vous, prend des photos de vos dossiers, papier, repart.
Vous ne saurez pas forcément qu'il est parti.
Il faut repérer des traces, etc. Et c'est tout le travail des équipes sécurité informatique.
C'est ce qui fait que là, semble-t-il, pendant plusieurs jours, c'est passé totalement sous les radars. Merci beaucoup, Pierre-Paul Gianetti, de nous avoir aidé dans les méandres de cette sécurité. C'est particulièrement inquiétant. Vous êtes consultant en sécurité offensive. Donc, pour Yes We Hack.